message que je veux vous partager avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé « Guérir pour croire ou croire pour guérir ». Guérir pour croire ou croire pour guérir. Alléluia. Vous savez, la prophétie qui vient de sonner nous interpelle. Amen. Et je veux que ces paroles ne tombent pas dans des oreilles de sourds. L'heure est vraiment avancée, mes bien-aimés. L'heure est vraiment avancée, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, nous entendons beaucoup de paroles et les chrétiens le disent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une rengaine, on le répète. Quelquefois même, on se dit que oh, c'est un verset d'évangélisation, on l'apprend aux enfants à bas âge. Mais est-ce que nous faisons attention à la teneur d'un tel verset? Est-ce que nous considérons les paroles de ce verset? Est-ce que nous croyons à ce que nous disons? En effet, de la même bouche qui confesse un tel verset, on peut entendre dire: franchement, si Dieu existait, je n'aurais pas autant de problèmes. Je ne serais pas malade. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de cataclysmes. Si Dieu existait, je serais certainement plus riche. Je suis malheureux. Est-ce que Dieu existe vraiment? Et pourtant, on confesse une parole qui dit exactement le contraire. Certains vont plus loin pour dire que Dieu dit qu'il aime le monde. Mais si Dieu aimait le monde, lui qui a fait toutes choses, pourquoi est-ce qu'il ne nous débarrasse pas de Satan, par exemple, qui crée ce grand désordre dans le monde? Il a tout pouvoir, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Donc, d'une certaine manière, on dit une chose, et en fait, j'ai l'impression qu'on ne croit pas ce qu'on dit. Alléluia! Quand on peut lire, par exemple, dans Jérémie 29, verset 12, versets 11 à 12, où le Seigneur dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu t'attaches à cette parole? Vous savez, on peut aussi le lire dans l'évangile de Jean. Lazare était mort. Et Jésus-Christ arrivait. Et Marthe, la sœur de Lazare, est venue voir Jésus-Christ. Et elle dit: si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu crois cette parole? Alléluia, je suis la résurrection et la vie. Je veux même le lire. C'est dans Jean 11. Jean 11. Voilà, Jean 11. Écoutez, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Écoutez ses propos. « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, écoutez ce qu'elle dit, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Alléluia. Écoutez, je ne sais pas si vous discernez le fond de la pensée. Elle dit une chose et elle pense le contraire. Elle dit une chose, je crois, elle dit une chose. Et elle pense le contraire. Marthe dit, il ressuscitera, n'est-ce pas, au dernier jour. Je lui dis, je suis la résurrection et la vie. Et elle continue de penser que, certainement, tu parles de la résurrection. Elle ne croit pas la parole que Jésus-Christ lui dit. Alors que dans sa bouche, elle confesse une parole. Elle confesse une parole, mais elle ne croit pas la parole qu'elle confesse. Et cela, c'est notre lot. À plusieurs d'entre nous. Nous disons une chose, peut-être que nous le répétons sans faire attention à la teneur de ce que nous disons. Alors on se rend compte que le Saint-Esprit avait rempli la bouche de Marthe de certaines paroles que Marthe disait sans faire attention au sens de ces paroles. Elle dit qu'elle croit que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et elle dit en même temps que c'est trop tard, Lazare est mort. Certainement, quand tu reviendras, il ressuscitera. Alléluia. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Frère, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Je voudrais que chacun le retienne et s'attache à cela. La parole de Dieu est la vérité. Quelles que soient les circonstances que tu verras devant toi, même que te paraissent contraires à ce que tu vis, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu reste la vérité. Je voudrais que tu l'acceptes tout simplement. Que tu crois, que tu te saisisses de cette parole. Et que tu en fasses un debout dans ton âme. Maintenant, si c'est si difficile pour toi de l'accepter et que tu voulais raisonner, ce que je ne te déconseille d'ailleurs parce que ce n'est pas par un raisonnement que tu as découvert Dieu, c'est en l'acceptant. Mais la parole de Dieu ne peut être que la vérité parce que la parole de Dieu crée. La parole de Dieu est une autorité. Quand Dieu déclare une chose, elle s'accomplit. Et Dieu est parfait. On ne peut pas dire qu'il est plus parfait. Il est parfait. C'est le maximum. C'est un superlatif parfait. On ne peut pas dire plus parfait. Ça n'a pas de sens. Dieu est parfait. Alors, si les circonstances de la vie te poussent à te poser des questions, est-ce que le problème vient de Dieu ou de ta position? Je crois que voici la bonne question à laquelle chacun doit répondre. Dieu ne peut pas mentir, parce que quand il dit une chose, j'allais dire toutes les forces qui sont dans la nature se mettent en branle pour accomplir sa parole. Alléluia! Donc il ne peut pas mentir, ce n'est pas possible. Quand il dit, elle arrive. Alors si une parole qui a été dite ne s'accomplit pas dans ta vie, il y a certainement des raisons, mais elles ne viennent pas de Dieu. Est-ce que tu peux accepter cela? Parce que c'est une base pour que tu puisses te remettre en cause et continuer une marche avec Dieu. Trop souvent, on accuse. Trop souvent, on indexe. Voilà. Si Dieu était là, comment il peut avoir des tsunamis? Si Dieu était comme si, comment? Dieu est là, il est toujours assis sur son trône. Il est le même. Alléluia. Alléluia. Et vraiment, je voudrais, avant même d'entrer dans mon message, que cela on l'accepte. C'est fondamental pour pouvoir marcher avec Dieu. C'est fondamental. Si tu ne te situes pas véritablement par rapport à la parole de Dieu, tu vas partir dans tous les sens. Et tous les sens t'éloignent de Dieu. Parce qu'il y a un seul sens pour aller à Dieu. Amen. Donc, quand les circonstances de la vie font que une parole ne s'accomplit pas, demande-toi si tu respectais, tu étais dans toutes les conditions pour que la parole s'accomplisse. Je voudrais qu'on aille sur nos textes de référence qui se trouvent dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 14. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 14. Et voici ce qui est écrit. C'est une question que le Seigneur nous pose. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un parmi nous est malade? Ah, je bénis le Seigneur, il n'y a pas de malade entre moi. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais voici ce que le Seigneur dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il donne ce qu'il faut faire, qu'il appelle les anciens de l'Église. Première attitude, appeler les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, qu'il oigne d'huile au nom du Seigneur. Verset 15, la prière de foi sauvera le malade. Je veux que vous souligniez l'expression prière de foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante. Dans certaines versions, on dit la prière active. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Voici une situation que le Seigneur nous décrit. Quelqu'un est-il malade? Oui, certainement. Est-ce que, premièrement, il a appelé les anciens? Oui, il a fait, j'imagine. Est-ce que les anciens ont prié pour lui en l'oignant d'huile? Oui, probablement. Mais ce que je veux qu'on regarde, c'est le verset 15, où le Seigneur s'adresse à l'ancien qui prie. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relève là. C'est quoi la prière de la foi? La prière de la foi sauvera le malade. Mais c'est quoi la prière de la foi? Avoir la foi, c'est croire en Dieu. Mais c'est aussi obéir à Dieu. Deux éléments que je vais mettre ensemble. Croire à Dieu et obéir à Dieu. Tu crois en Dieu. Que tu n'obéis pas, tu es un peu comme celui à qui on montre quelque chose à aller prendre et ils n'en prennent pas le chemin. Quelqu'un qui fait la moitié du travail ou qui ne fait pas l'essentiel. Je ne dirais même pas la moitié, il ne fait pas l'essentiel. Il dit, je crois, et il n'obéit pas. Donc, l'effet de sa foi est inexistante. Tu peux aussi obéir sans croire. Ça, c'est du civisme. C'est la religion. On fait ceci, on fait cela, donc on le fait. Et quelquefois, la foi est abandonnée de côté. On le fait, n'est-ce pas, par habitude. On le fait pour suivre les autres. On le fait par coutume, par tradition. Alors, pour que la foi soit totale, il faudrait croire et obéir en même temps. Je veux, pour qu'on comprenne davantage, aller encore dans les évangiles. Vous savez, dans le livre de Luc, il était dit que les 70 disciples étaient partis et sont venus vers Jésus-Christ tout joyeux. Seigneur, en ton nom, les démons nous étaient soumis. Amen. Ça veut dire qu'ils sont partis. Et habituellement, quand ils vont, ils prient, les gens sont guéris, etc. Alors, ils sont revenus contents parce que vraiment, la parole s'accomplissait. Et quand on lit dans Matthieu 17, je vais prendre un autre exemple, je voudrais qu'on y aille, Matthieu 17. Matthieu 17. Et voici un témoignage, à partir du verset 14, je vais lire. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus-Christ et dit, écoutez bien, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et Jésus de répondre, « Race incrédule et perverse. » Répond, dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Christ de répondre, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Qu'est-ce qui a changé? Ils n'ont pas changé de méthode. Il y a quelque temps, ils guérissaient tout le monde. Vraiment, ils étaient contents parce qu'ils guérissaient des malades au nom de Jésus-Christ. Et voici une situation qui arrive où ils viennent pour opérer de la même manière et la chose ne se passe pas comme ils attendaient. Il y a un échec. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et donc, eux-mêmes ne comprennent pas. D'habitude, écoute, on va, on prie au nom de Jésus-Christ et les gens sont guéris, mais cette fois-ci, ils ne guérissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la parole n'est plus vraie? Voici une question. Devant un échec, est-ce que le Dieu qui opérait des miracles a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jésus-Christ les teste d'incrédules. C'est même qui était crédule, qui faisait des miracles il y a peu de temps. Jésus les teste d'incrédules. Pourquoi? Est-ce que parce qu'ils n'ont plus de foi? Est-ce parce qu'ils ne croient plus en Dieu? Je pense que si. Mais il doit y avoir quelque chose qui manque. Il doit y avoir quelque chose qui manque. Parce que Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils échouent devant la guérison? Et vous avez vu que Christ, il a guéri, il a appelé l'enfant, il a parlé, le problème était réglé. Et ils sont allés vers Christ pour savoir ce qui se passe. Et Christ leur répond, c'est à cause de votre incrédulité. Je disais tout à l'heure que la foi, c'est croire, mais c'est aussi obéir. Vous savez, un enfant de Dieu est accompagné par le Saint-Esprit. Il faudrait vraiment que cela, on puisse l'accepter, l'admettre. Sinon, on ne peut pas être opérant. Regardez Jésus-Christ. Quelquefois, devant un malade, on de la boue, il met sur ses yeux, il guérit. Un autre vient, il touche le pan de sa robe, il guérit. Pour un autre, il dit une parole, il guérit. Ça veut dire qu'il n'y a pas une règle fixe, rigide. La seule chose qui donne la puissance à un enfant de Dieu, c'est l'écoute qu'il a de ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Quand Jésus-Christ était incrédule, je ne pense pas qu'il parle de leur relation qu'ils ont avec leur croyance, mais c'est le fait qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils se sont dit, non, non, d'habituellement, certainement le Saint-Esprit l'a dit, celui-là, il faut jeûner pour le guérir. Mais ils se sont dit, non, d'habituellement, voici comment on fait. On prie, on lui impose le malade, on lui impose la main et il guérit. Alors, le titre de mon message, guérir pour croire ou croire pour guérir. C'est vrai que dans la Bible, je pense par exemple aux 10 lépreux, il y a certains qui ont été guéris et il y en a un qui a cru. Mais Christ aussi dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. Ce que Christ veut, c'est qu'on ait la foi. Et notre foi doit être vivante et dynamique. La foi ne se résumera pas aux choses écrites qui ne bougent pas, parce que l'Esprit de Dieu est vie. L'Esprit de Dieu est vivant. Selon les circonstances, il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais comment peux-tu savoir ce que le Seigneur veut faire si tu n'es pas attentif à la voix de l'Esprit? Amen. Comment peux-tu faire si tu n'es pas attentif à la voix de l'Esprit? C'est à cause de votre incrédulité. Et même avant, il dit race incrédule et perverse. La perversité, quoi? Il y a une corruption qui est entrée en eux. Pourquoi? Est-ce que c'est l'immobilisme? Vous savez? D'où vient le légalisme, par exemple? C'est le désir d'organiser, de figer les choses. À un certain moment, l'organisation qu'on s'est mise en place est tellement rigide qu'on oublie même d'être sensible à la voix de l'Esprit qui doit conduire tout enfant de Dieu. Et cela, c'est un danger. Cela, c'est un danger. Un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Christ a dit que je ne vous laisse pas, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Est-ce que tu acceptes de te laisser enseigner par le Saint-Esprit? Tu es malade. Tu as demandé la guérison. Et tu n'es pas guéri. Est-ce que tu as fait ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait ta part comme il se doit? Est-ce que tu as été attentif? Est-ce que tu as demandé la démarche que le Saint-Esprit te suggère? Parce que ce n'est pas parce que hier il a utilisé de la boue qu'il utilisera toujours de la boue. Mais Dieu veut te parler tous les jours. Nous commençons une nouvelle année spirituelle. Et je crois que c'est le message que le Seigneur veut te donner. Il faut qu'on affûte nos oreilles pour entendre la voix de l'Esprit. Aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué, négativement surtout. Il y a tellement de tumultes qu'aujourd'hui, il s'agit de voir à travers une broussaille qui devient de plus en plus épaisse. Quel sera ton guide si tu n'as pas le Saint-Esprit? Pour te donner instant après instant l'attitude à avoir devant les circonstances de ce monde. Mais bien aimé, Dieu veut encore faire avec nous. Mais écoute, Israël, dit la Bible. Écoute. Écoute et entends ce que Dieu te dit. Écoute avec ton oreille et entends avec ton cœur. Parce que si tu n'écoutes pas, tu vas devenir un religieux. Si tu deviens un religieux, Tu vas aller d'échec en échec. Parce que Dieu n'est pas un Dieu figé. Je pense à l'apôtre Pierre qui a fait une vision un jour. Et il voit descendre du ciel sur un drap des animaux impurs. Que véritablement, selon leur tradition, ils ne doivent pas les manger, les animaux qui n'ont pas les sabots fendus, des reptiles, etc. Alors le Seigneur dit, tue et mange. Il a dit, ah non, non, jamais, moi je ne peux pas le faire. Chez nous, ça ne se mange pas. Et le Seigneur lui dit, ne déclare pas impur ce que je dis pur. Pour te dire que ta rigidité peut être une perte pour toi. Enfant de Dieu, soyez attentifs à la parole de Dieu, à la voix de l'Esprit. Où nous en sommes aujourd'hui, le langage est tellement brouillé, est tellement confus, que de votre propre force, vous ne pourrez pas. De notre propre force, on ne pourra pas. Nous avons besoin du secours du Saint-Esprit. Nous avons besoin vraiment du secours du Saint-Esprit. Vous savez, un enfant de Dieu qui veut avancer avec le Seigneur, je le dis souvent, doit poser des questions au Seigneur. Quelle que soit la circonstance, une circonstance te choque, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Une situation te fait rire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que le Seigneur parle encore. Il parle beaucoup encore, parce qu'il sait qu'on a besoin d'avoir sa lumière. Mais encore, faudrait-il en être conscient et s'attendre à la parole de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit, la Bible l'appelle l'enseignant, c'est qu'il nous enseigne. Les circonstances de la vie changent, il nous enseignera selon les circonstances que nous vivons. Alors Dieu n'a pas changé. Il est exactement le même. Mais pour t'aider, il faut que tu l'entendes. Parce que ce que tu lui demandes, peut-être tu lui dis, Seigneur, guéris-moi de ce cancer. Il te dit, va, jeûne. Un autre, il dira, va prendre une douche. Un autre, il dira, je ne sais pas. Ne pense pas que c'est parce qu'il a guéri celui-là de cette manière-ci que ce serait exactement la même chose pour toi. Et c'est un risque. Parce que l'habitude fait que la voix de Dieu, ça veut dire que vous rendez compte que Marthe, le Saint-Esprit lui parlait, mais il n'écoutait pas en vérité. Parce que si vous faites attention au propos de Marthe, Jésus dit, lui pose une question, elle répond ce que l'Esprit lui dit, mais elle pense autre chose. Je sais que tu es le Dieu vivant qui peut toutes choses. Et en même temps, on est en train d'affirmer que, off, devant la mort, tu ne peux rien. Certainement, il va ressusciter quand tu reviendras. Mais c'est cela notre situation. C'est ce que nous vivons tous les jours. Nous ne faisons plus attention à la voix de l'Esprit. Et notre foi, en fait, est bancale. Parce que quand on a cru, il faudrait pouvoir accomplir. Et pour accomplir les choses, c'est la voix du Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Pour agir, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la direction. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous trace le chemin. Il nous enseignera toutes choses, dit la parole. Est-ce que tu veux te disposer à entendre la voix du Saint-Esprit? Alors, il y a beaucoup de tumultes. Vous souvenez-vous de Élie, quand il a combattu Jézabel et sa bande de sorciers, de chacals. Élie qui avait commis, avait fait une œuvre, une prouesse, je ne sais même pas comment le qualifier, était apeuré, Élie s'est enfui. Et la Bible dit qu'il allait se réfugier dans des montagnes. On dit qu'il y a eu un grand vent. La montagne s'est fendue. Il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des situations spectaculaires. Mais le Seigneur n'était pas dedans. Et ensuite, il y a eu un léger vent, un doux murmure. Ça veut dire qu'il faut prêter l'oreille si tu veux entendre la voix de Dieu. Prête l'oreille. Ce n'est pas forcément dans les vacarmes, ce n'est pas forcément dans le spectaculaire. Parce que le monde nous abrute par le spectaculaire. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Et souvent, c'est en prêtant attention. Je ne veux vraiment pas être long parce que c'est la parole que le Seigneur m'a laissée. Une parole simple. Il dit que cette année spirituelle qui commence, il faudrait qu'on compte davantage le Saint-Esprit qui veut parler à chacun de nous, qui nous parle tous les jours, mais nous ne prêtons pas attention. Alors, nous nous prenons des circonstances de la vie, mais quand le Seigneur nous donne le chemin, nous prenons le chemin inverse, pensant qu'on fait l'œuvre de Dieu, parce que nous sommes installés dans la religion et notre foi est bancale. Jésus-Christ arrive bientôt. Aujourd'hui, il cherche des militants, des hommes qui savent croire en lui et savent lui obéir. Alléluia. Croire en Dieu et obéir. Je donne une foi complète. Parce que celui qui croit et qui n'obéit pas, sa foi n'est pas opérante. Celui qui obéit et qui ne croit pas, sa foi n'est pas opérante. La foi, Dieu dit que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Mais la foi, il y a quoi dedans? C'est la question. Il y a ton intimité avec Dieu et ton désir d'accomplir ce que Dieu te demande. Ton empressement à accomplir ce que Dieu te demande. Souvenez-vous d'Étienne, qui reçoit donc une parole. Va dans le désert, alors qu'il est diacre, appelé à servir dans l'église, s'occuper des choses de l'église. Un matin, le Seigneur lui donne une parole. Va là où il n'y a personne à servir, dans le désert. J'aurais pu se dire, non, mais Seigneur, ça serait une parole du diable, ce n'est pas possible. Savoir, je dois être là pour donner à manger aux gens, organiser, etc. Mais non, si je veux, je serai loin de mon ministère. Mais il s'empresse de le faire. Il comprend pourquoi le Seigneur l'a envoyé. Es-tu disposé à écouter la voix du Seigneur, à t'exécuter? Encore faudrait-il que tu distingues la voix du Seigneur. Es-tu prêt à prêter l'oreille pour que le grand tumulte de ce monde ne vienne pas étouffer la voix qui est quelquefois fine, qui est la voix de l'Esprit en toi? Tu me diras, mais comment la distinguer? Mais quelle est ta vie de méditation? On va chercher le Seigneur dans la parole. Amen. Vous savez, il n'y a pas 1000 secrets pour avancer avec le Seigneur. Il faut méditer la parole. Il faut méditer la parole. Méditer la parole, c'est quoi? Ce n'est pas que la lire, mais c'est dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans ta parole? Seigneur, comment est-ce que tu veux me construire dans ta parole? Seigneur, comment tu veux avancer avec moi dans ta parole? Seigneur, que veux-tu me montrer dans ta parole? Et le Seigneur te montre un chemin. Te montre le chemin, parce qu'il n'y en a pas deux. C'est celui de Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ nous a dit que le Saint-Esprit ne voudra pas parler de lui-même. Il parlera toujours de sa part. Alors, si tu veux le chemin, écoute la voix du Saint-Esprit, parce qu'il part. Il ne dit pas ce qu'il n'a pas vu. Il dit ce qu'on lui a dit de dire. Alléluia. On dit que l'Esprit de Dieu est sensible. Alléluia. Celui qui est sensible, il est doux. D'où sa douce voix, peut-être. Alors, affûte tes oreilles, mon bien-aimé. Nous avons besoin d'entendre cette voix-là pour avancer sur le chemin de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, voici ce que tu voulais que je partage avec mes frères. Seigneur, merci pour cette année qui commence. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour avancer. C'est vrai que l'obscurité s'épaissit davantage tous les jours. Tout nous pousse à désespérer. Mais nous voulons regarder à toi, qui est notre espérance et notre force. Seigneur, nous savons qu'à la croix, tu as créé le cadre de notre résurrection et de notre victoire. Donne-nous de demeurer sous ton abri, Seigneur, tous les jours de notre vie. Saint-Esprit, nous voulons tenir ta robe pour marcher avec toi, pour marcher à ta suite, suivre ton pas. Seigneur, je veux te bénir pour mon frère, pour ma soeur ici réunie. Que toute ta gloire te revienne dans nos vies. Je prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.